Olivia Gesbert, est-ce que la table est mise ?
Oui, visiblement.
Le couvert.
Bah, c'est parfait. France Culture, il est midi, on va commencer par faire un point sur l'information.
Les titres avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce ce matin la création d'un centre d'accueil humanitaire pour migrants. Il doit ouvrir le mois prochain près de la porte de la Chapelle. Un second est prévu à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne d'ici la fin de l'année. Toutes les précisions tout à l'heure avec Cécile de Carvazdoué qui a assisté il y a quelques minutes à cette conférence de presse de présentation de la maire de Paris. Manuel Valls souhaite que François Hollande indique dès ce jeudi un cap pour 2017. Le chef de l'État va prononcer après-demain en effet un discours sur la démocratie et le terrorisme dans le cadre d'une rencontre organisée Salvadram. Discours donc très attendu dont nous parlera Frédéric Seyss. La CGT, la CFE, CGC Sud appellent aujourd'hui les salariés du groupe SFR Numéricable à une journée d'action unitaire de grève sur l'emploi et les conditions de travail. Hier, le groupe Altice annonçait un projet d'offre publique d'échange volontaire visant toutes les actions de SFR Group qu'il ne détient pas, soit de 22% du capital de l'opérateur télécom, suivi de ce mouvement social avec Annabelle Grelier. Et puis on parlera de l'ouverture du 22e rendez-vous de Biarritz avec TV France International et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée qui présente des chiffres sur les exportations de l'industrie audiovisuelle française. En 2015, les ventes ont atteint plus de 164 millions d'euros, soit une hausse de 7 points par rapport à 2014. Voilà donc pour les titres et c'est donc tout de suite la grande table qui commence, Olivia Gesbert.
Merci beaucoup Antoine, merci. On vous retrouve à midi et demi pour un journal développé. Bonjour à tous, bienvenue autour de la Grande Table, magazine de la culture et des idées de France Culture. Heureuse de vous retrouver jusqu'à 13h30. Et si on commençait aujourd'hui par le dessert ? Pour laisser le temps au réalisateur François Ozon d'arriver, rien de grave, un petit problème technique sur son film France, qui sort en salle demain et dont il vient nous parler. Le réalisateur de Sous le sable, 8 femmes, une nouvelle amie jeune et jolie et notre première invitée. On le retrouvera sereinement à 12h55 dans la deuxième partie de la Grande Table. Du coup, les derniers seront les premiers. C'est une chanson de Céline Dion, quand j'étais jeune, mais c'est surtout un précepte biblique. Bref, l'ancien monsieur cinéma de Canal+, Manuel Elduy et Pascal Rogard, directeur général de la SACD, sont les invités de la première partie de la Grande Table pour la culture sans état de Modiano à Google. La Grande Table se tweet, se like et se télécharge également sur franceculture.fr. Alors bienvenue à tous et faites vos jeux.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Vous avez peut-être suivi toute la semaine dernière un étrange feuilleton, celui d'Apple en terre d'Irlande. La firme à la pomme s'est vue infliger une amende record par Bruxelles parce qu'elle devait quelques sous au fisc. Le coup de pouce fiscal accordé par le gouvernement irlandais étant assimilé à des aides illégales. Rien de surprenant à ce qu'elle conteste cette sanction à 13 milliards d'euros. Plus étonnant qu'elle reçoive le soutien de Dublin. L'exécutif irlandais a en effet fait appel de la décision européenne dénonçant une intrusion de la Commission qui nuit aux intérêts de son pays. Et quels sont ces intérêts ? Eh bien, c'est bien sûr l'emploi en Irlande et son modèle aussi d'optimisation fiscale. Le bras de fer avec l'Europe est donc engagé. Retour maintenant chez nous. Quelle politique d'accueil envers les GAFA, acronyme pour Google, Apple, Facebook, Amazon, nouveaux territoires conquis, nouveaux contenus acquis. Les géants d'Internet sont-ils une menace pour la culture ? Face au tout numérique, l'exception culturelle française a-t-elle encore un sens ? L'État, enfin garant de la diversité et de l'accès de tous à la culture, a-t-il démissionné ? Autant de questions soulevées en cette rentrée par trois auteurs, la députée socialiste Karine Berger, l'économiste Caroline Lemoigne et notre invité ce midi, Manuel Alduy, ancien responsable du numérique et du cinéma à Canal+, vice-président des ventes et du développement à la 20th Century Fox Television Distribution, société de distribution cinématographique. Bonjour à vous Manuel Alduy.
Bonjour.
C'est long à dire, hein, tout ça.
Oui, désolé.
Mais ça fait beaucoup de boulot, on imagine. Vous co-signez en cette rentrée La culture sans état de Modiano à Google, un essai qui vient de paraître chez Odile Jacob. Ce livre part d'un constat. Depuis les années 2000, la politique culturelle française ne parvient pas à s'adapter au bouleversement numérique de notre relation collective et personnelle à la culture. Toujours un train de retard. On va essayer de comprendre pourquoi et quels sont les effets, l'impact de ce retard pris par les politiques culturelles françaises. Pour discuter avec vous et avec nous ce midi, Pascal Rogard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la SACD. la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques, Société de gestion collective des droits d'auteur. Manuel Alduy, la politique, la culture, hein, pour vous, est-ce que c'est encore un enjeu politique aujourd'hui ?
Oui, ça reste, selon moi et selon, je pense, mes co-auteurs, un enjeu politique, parce que la culture, c'est ce qui nous rassemble dans une communauté, qu'elle soit nationale ou plus large. Et aujourd'hui, elle se diffuse de façon mondiale, bien plus rapidement que dans le passé, bien plus fortement que dans le passé. Et donc elle trouble ceux qui n'arrivent pas à saisir ces évolutions, et puis elle trouble ceux qui sont au cœur de la filière, je pense les auteurs, les producteurs, les éditeurs, les distributeurs traditionnels de culture.
Pascal Regard, est-ce que vous, si vous êtes d'accord, j'imagine, avec le fait que la culture doit rester un enjeu politique et qu'elle en est un, est-ce que vous pensez que c'est encore un enjeu des politiques, c'est-à-dire du gouvernement actuel et des derniers gouvernements, pour regarder un tout petit peu plus loin en arrière?
Moi, je crois que c'est un enjeu des politiques, au vu du nombre de politiques que nous voyons actuellement et qui viennent nous parler de culture et éventuellement voir avec nous le programme qu'ils pourront avoir dans le cadre de la prochaine élection présidentielle.
En parler, c'est bien, mais
sur l'action, le sujet, il est clair, c'est que les États nationaux sont de plus en plus dépossédés, c'est bien expliqué dans le livre qu'a écrit Manuel, sont dépossédés du pouvoir d'agir par des entreprises qui se situent à l'échelon européen, dans des pays où on n'a pas la même politique culturelle qu'en France. C'est-à-dire, si vous êtes installé en Irlande, en Hollande, au Luxembourg, les préoccupations culturelles sont extraordinairement faibles. Et en tout cas, la préoccupation, c'est d'essayer de générer des ressources et des emplois, et pas de défendre la culture. Donc, la politique, à l'échelon national, n'a plus prise. Et l'Europe, elle, ne répond pas. C'est-à-dire qu'on n'a plus, à l'échelon européen, des grands présidents de commission, comme on l'a eu avec Jacques Delors, des gens qui étaient capables de concevoir des politiques à tous les niveaux, pas seulement d'ailleurs au niveau de la culture, et de faire vibrer les citoyens européens. Pour le moment, on voit l'Europe, dans tous les sujets, crée des problèmes, et les citoyens, et même les créateurs, qui sont par nature européens, parce qu'ils voyagent en Europe, n'aiment plus cette Europe-là.
Donc vous ouvrez cette discussion, Pascal Regard, sur un constat d'impuissance. Manuel Alduy, dans cet ouvrage que vous co-signez, La culture sans État, vous appelez au contraire à une politique culturelle volontariste et déterminée, c'est-à-dire que vous n'avez pas totalement, vous ne vous avouez pas vaincu, vous estimez que l'État ne doit pas s'avouer vaincu. Il faut dire que la culture a longtemps été un enjeu politique, sous André Malraux, sous Mitterrand bien sûr, avec l'emblématique ministre de la culture Jack Lang. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Est-ce que c'est que nos politiques, nos gouvernements ont moins d'intérêt pour la chose culturelle, pour cette spécificité française, cette exception culturelle française, ou est-ce qu'ils ont moins les moyens de pouvoir intervenir dans ce champ, comme l'évoquait à l'instant Pascal Regard ?
Je pense qu'il s'agit moins d'une question de moyens que de prise de conscience ou d'hypocrisie, ou les deux. Il s'est passé une chose que nous avons tous vécue, qui est le développement d'Internet. Et donc, Internet a permis, entre autres choses, d'accéder à énormément de cultures sous toutes ses formes, l'écrit, l'image animée, la musique, de façon très, très libre, très simple et le plus souvent gratuite. Et les politiques, me semble-t-il, j'ai vécu ça sur la dernière décennie, ont vu ce développement comme presque la réponse à l'objectif initial de la politique. L'un des objectifs initiaux de la politique culturelle qui était le développement de l'accès. Ils se sont dit, chouette, Internet est là et va résoudre notre problème d'accès à la culture qui frappe une partie du pays. Simplement, ils ont peut-être mal analysé les sous-jacents de ce développement, les nouveaux intermédiaires qui sont aux commandes du développement d'Internet et de la culture sur le digital dans le monde. Ils n'ont pas ajusté leur logiciel et leur réponse à ces évolutions. On a encore beaucoup trop, et c'est un de nos points, je pense, centraux du livre, on a encore beaucoup trop de débats avec les différents gouvernants sur le thème de l'accès à la culture, alors que, me semble-t-il, le sujet aujourd'hui est d'abord celui de la promotion de la culture, et notamment de la culture la plus fragile. On y reviendra après, si vous le souhaitez.
Mais l'État n'a pas vu venir ce danger pour vous ? Vous parlez d'hypocrisie. Ou est-ce qu'il a, malgré lui, peut-être créé les conditions de son arrivée ? Une brèche dans laquelle les géants du numérique se sont tout naturellement engouffrés. Et à vrai dire, ils auraient eu tort de s'en priver, peut-être.
Moi, je ne suis pas à la place des politiques, et c'est peut-être plutôt Karine Berger qui est députée socialiste et qui vit la machine de l'intérieur. Je pense qu'il y a toujours un temps d'adaptation entre la réalité, enfin des politiques à la réalité. Les politiques se sont accrochés. La culture, c'est un secteur qui est très très régulé. Si je prends l'exemple que je connais bien, qui est celui de l'audiovisuel. La filière a réussi à encadrer le développement de la télévision en France dans une régulation qui soit harmonieuse avec la filière, sous forme de quotas d'exposition, de soutien à la production indépendante, etc. Les politiques se sont attachés au cours de la dernière décennie à ne regarder que les diffuseurs traditionnels de la culture, et ils ont considéré qu'Internet était un peu hors sol. Alors, il y a un obstacle qui, malheureusement, s'appelle l'Europe, parce que c'est vrai, on est dans un grand marché et il y a une limite à l'action nationale. Et la France est un des rares pays en Europe à avoir une politique culturelle aussi développée. Le deuxième problème, c'est que je pense qu'il y a aussi une question de génération. Il n'y a que dans cette équipe gouvernementale actuelle depuis l'élection de François Hollande que, globalement, la moyenne d'âge est assez jeune. Quand on était, il y a 20 ans, 15 ans, ou encore 10 ans, face à certains politiques, on voyait bien qu'on avait un problème de génération. Le développement d'Internet, hein, ce sont nos enfants, mes adolescents, il est massif. Plus on est jeune, plus il est massif.
Rajeunissement notamment au ministère de la Culture, les ministres successifs et au ministère aussi du numérique, hein, de la chose numérique.
Donc je suis pas là pour dénoncer. Enfin, ce qui n'a pas été fait, on aimerait juste qu'aujourd'hui, il y ait enfin une prise de conscience et qu'on puisse après enfin débattre des mesures nécessaires.
Des mesures à prendre, urgemment. Pascal Rogard, avant d'en venir aux mesures, est-ce que d'abord vous êtes d'accord, vous, avec le constat fait par cet ouvrage, La culture sans État, que vous avez tout juste eu le temps de feuilleter ? L'État a péché par inertie, nous disent ses auteurs, en maintenant artificiellement les objectifs de politique culturelle définis dans les années 80, ce qu'évoquait à l'instant Manuel Alduy, l'accès pour tous et le maintien de la diversité culturelle. L'État n'a pas compris que les bouleversements induits par le numérique devaient l'amener à reformuler sa mission. Ce constat de départ du livre, vous êtes d'accord avec ?
Pas tout à fait, parce que je pense que l'État a vu qu'il y avait un problème, qu'il y avait des modifications à introduire avec l'arrivée du numérique. Simplement, c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, les outils ne sont plus aux mains de l'État national. Les outils de réponse par rapport aux grandes sociétés, aux GAFA, il y a un très beau chapitre sur les GAFA dans le livre, les outils sont à l'échelon européen. J'ai un exemple à citer. Par exemple, l'ensemble des opérateurs de vidéo à la demande, Manuel était responsable d'une activité de vidéo à la demande, en France, localisée en France, sont soumis à une contribution au financement de la création et une contribution au financement du CNC. Sur la contribution au financement du CNC, il y a 2 ans, le Parlement français a voté une taxe qui est identique pour les opérateurs délocalisés, comme Netflix, à celle applicable aux opérateurs localisés en France. Mais on attend toujours la réponse de Bruxelles. Et entre-temps, le résultat, c'est la concurrence déloyale. C'est-à-dire que Netflix, qui concurrence des opérateurs français, n'est pas soumis aux mêmes règles. Le sujet, c'est que Bruxelles dresse un tapis rouge pour les entreprises américaines, au détriment de la création européenne. Alors, il y a eu aussi un sujet droit d'auteur, c'est-à-dire au début de l'année dernière. Pour Bruxelles, la réforme du droit d'auteur était la deuxième priorité. Bon, tout ça est un peu tombé à l'eau. C'était pour faire un grand marché du numérique parce qu'on a réussi quand même à convaincre l'Europe, ses commissaires, que ça allait trop loin. Mais il faut bien comprendre que la plupart des décisions qui concernent la culture liée à Internet ne dépendent plus des États nationaux. Elles dépendent d'une autorité qui ne comprend pas ce que c'est que faire de la politique et qui est toujours soumise aux impératifs du marché unique, laisser faire, laisser, pas faire, laisser passer la doctrine libérale européenne. Et ça, ça suffit. Jamais, on est toujours face à Bruxelles dans des combats négatifs.
Mais pourquoi Bruxelles dresse ou déroule un tapis rouge aux GAFA? Parce que les GAFA, c'est de l'emploi, comme l'a rappelé encore assez récemment Apple, par la voix de Tim Cook, qui se vante d'avoir créé plus d'1,5 million d'emplois en Europe. C'est pas rien.
C'est de l'emploi, mais quand vous avez à peu près 200 milliards d'euros localisés aux îles Vierges, ce sont des impôts que vous n'avez pas payés, et c'est des impôts que vous et moi, on a payés à leur place.
Avec le cas irlandais que j'ai cité en début d'émission, on peut pas dire que l'Europe... Bruxelles ne fait rien par rapport à ça. Il y a quand même une sorte de conflit en règle avec l'Union européenne ou entre les GAFA et l'Union européenne.
Ben, ils se réveillent maintenant avec 10 ans de retard. Alors, c'est vrai que là, maintenant, il y a une commission européenne qui a l'air de prendre les choses en main. Sur le plan également de la concurrence avec Google, la commission européenne a l'air de se réveiller. Mais entre-temps, les grands opérateurs Internet américains ont pris des positions de marché qui ne seront plus contournables. Et ils l'ont pris grâce à leur intelligence, grâce à leur invention. Ça, c'est sûr qu'ils ont inventé des procédés techniques nouveaux, mais grâce aussi à l'optimisation fiscale. Et l'optimisation fiscale, qu'est-ce que c'est? C'est de la concurrence déloyale.
Manuel Alvi, qu'est-ce que vous leur reprochez exactement et au fond aux GAFA sur cette question culturelle, hein? GAFA, c'est ces grands géants de l'Internet, du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon.
Alors, le mot reproche est un peu difficile. Je pense que le métier des GAFA, et plus particulièrement ceux qui sont dans le domaine du service, donc je mets peut-être Apple un peu de côté, dont le métier de base n'était pas celui-là, leur ligne de conduite, hein, est de promouvoir et de répondre à une demande. Et en fait, ils incarnent, les GAFA et tous les nouveaux opérateurs mondiaux du numérique qui se développent autour de nous, Pascal a cité Netflix, ne promeuvent qu'une chose, c'est que la clé doit être dans les mains du consommateur, puisque c'est ainsi qu'ils l'appellent. Là où le bât blesse, c'est que la culture est tout sauf un marché de la demande. C'est un marché de l'offre. Et quand vous voyez la façon dont les GAFA et qu'on sort, parle de la culture comme quand ils parlent d'autres services qu'ils procurent à leurs usagers, ils ne font aucune distinction. Et ce discours de le consommateur a tous les droits, c'est lui qu'il faut écouter pour savoir ce que l'on va créer, ce que l'on va éditer, ce que l'on va produire, me semble-t-il, est totalement antinomique avec ce qu'est la culture, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une œuvre littéraire, cinématographique ou musicale. Et il y a vraiment une... Je pense que je suis optimiste de nature, que le combat n'est pas perdu, mais il y a une révolution culturelle qui a été opérée grâce au développement ou à cause du développement d'Internet sur ce sujet-là, qui est très compliqué à vivre. On a cité dans le livre un des porte-parole de Netflix. Par ailleurs, Netflix est une entreprise formidable qui explique que il est là. Netflix est un service qui est là pour offrir ce que les gens veulent regarder. Je ne suis pas sûr que ça soit un projet culturel. Je pense même que c'est exactement l'inverse.
Mais vous en parliez mieux, vous, de la culture, Manuel Alduy, quand vous étiez à Canal+. Parce que vous dites qu'aujourd'hui, pour une politique culturelle de combat, il faut contrer cette tendance des GAFA à faire de la culture un simple business. Mais pour vous aussi, à Canal+, là où vous êtes aujourd'hui, à la 20th Century Fox, ouais, la culture est aussi un business. Peut-être vous la percevez de manière plus noble. Mais est-ce que ce n'est pas simplement, pardon, pour vous poser la question franchement, allez-y, parce que votre part du gâteau, c'est un tout petit peu amoindri, que les intérêts de ces acteurs historiques, acteurs privés du marché de la culture, sont aujourd'hui menacés, que vous réagissez?
Non, mais le sujet, la culture, c'est une industrie. Je ne suis pas là uniquement pour parler philosophie. Donc, il n'y a pas de sujet. Il faut que elle s'en sorte avec un modèle économique qui fonctionne. Bon, dans le cas particulier franco-français, on est un petit pays. Il n'y a pas assez de Français pour supporter une économie culturelle aussi importante qu'aux États-Unis, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a des mécanismes de soutien qui permettent de soutenir et qui sont plus forts dans certaines parties de la filière culturelle et beaucoup moins dans d'autres. Bon. Donc, est-ce que j'ai envie que ce dispositif perdure, oui. Est-ce qu'il s'agit de savoir si ça répond aux intérêts des diffuseurs traditionnels dont l'un d'entre eux a été mon employeur jusqu'à récemment ou pas? Je pense que c'est pas vraiment le sujet. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de diffuseurs traditionnels à la télévision et dans d'autres secteurs de culturels qui ont un peu tardé à réagir et à comprendre le choc qu'ils étaient en train de se prendre en pleine face. Là, vous me posez une question sur les GAFA. Elles font par ailleurs un travail formidable. Hein. Moi, j'ai 9 Macintosh à la maison. J'utilise pleinement ces nouveaux outils et ces services numériques. C'est pas le sujet. Bah, mais
avec
attention.
9, on imagine que vous arrivez à faire le tour.
Parce que
de
je les garde. C'est une génération. Je garde toutes les générations. Mais c'est un. Donc, il ne s'agit pas d'attaquer les GAFA en tant que telles. Ces entreprises sont formidables et toutes les autres qui développent des services similaires. Également. Mais attention, la culture, c'est autre chose. C'est juste autre chose. C'est pas un marché de la demande.
Alors, on va voir que faire ensemble avec vous, Manuel Alduy, qui co-signait la culture sans état de Modiano à Google chez Odile Jacob en cette rentrée, et avec Pascal Rogard, qui a accepté de venir discuter avec vous, directeur général de la SACD France Culture. Il est midi passé de 21 minutes. Je joue bien, hein, au piano.
Oui, bravo.
Un amoureux de Beethoven, le pianiste américain Richard Gould, interprétant la partita numéro 3 en la mineur de Bach. Il sera ce soir au 37e festival du piano, au piano, au Jacobin, à Toulouse.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Alors que faire, Manuel Alduy? Il y a eu des tentatives quand même à Dopi en premier lieu, ce grand chantier de réflexion ouvert aussi avec Pierre Lescure et son rapport qui était très attendu. Vous êtes-vous très critique à son égard? Il n'y a pas de piste sérieuse de réflexion et d'action à travers tout ça pour vous?
Si, il y en a beaucoup. Après, le sujet est vaste. Il nous semble que le premier point, comme évoqué tout à l'heure, et d'essayer de refocaliser la politique culturelle sur la promotion des œuvres et de cibler plus particulièrement celles qui sont fragiles. Pendant longtemps, en fait, et on est un peu comme ça encore dans le secteur audiovisuel, on a un soutien qui vise à protéger ou à soutenir les œuvres européennes, les œuvres françaises, qu'il s'agisse de l'audiovisuel, la télévision ou la radio. Avec cette économie de la demande qui est le numérique, on est confronté à des GAFA qui ont un agenda différent, à des algorithmes qui sont très sophistiqués et qui percutent totalement la régulation de la promotion des œuvres européennes. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à reconcentrer la politique culturelle là-dessus. Ça veut dire quoi ? Par exemple, c'est un sujet de désaccord qu'on a avec Pascal, je crois. Il y a 2 ans, le CNC a ouvert un moteur de recherche pour que les internautes, les citoyens, puissent plus facilement trouver les films qu'ils avaient envie de regarder à la demande sur Internet. L'idée était que si les gens piratent, c'est parce qu'ils ont du mal à trouver les œuvres dans l'offre légale qui est un peu éparpillée, pas concentrée, il y a plusieurs plateformes, etc. C'est pas facile. Tous les principaux opérateurs de vidéo à la demande y ont participé, en France, hein, y ont participé, puisque le CNC qui pilotait ça s'est attaché à travailler qu'avec des services installés en France. Ce qui est bizarre avec ce service, c'est que est-ce que les internautes ont vraiment un problème pour trouver Star Wars ou le dernier James Bond ? Je pense pas, ou alors c'est vraiment peut-être mon père. Donc le vrai sujet est... Est-ce que les internautes n'ont pas plutôt un problème pour trouver certaines œuvres méconnues qui n'ont pas le bénéfice du marketing que les blockbusters ont ? Et pourquoi on n'a pas réfléchi à ça dès le début ? Non, on a juste eu un moteur de recherche qui est une espèce de comparateur de prix. Et voilà.
Trouver des pistes qui œuvrent vraiment à la diversité. Alors est-ce que dans tout ça, l'Europe peut être un rempart, le dernier rempart peut-être, pour citer vos mots, Manuel Alduy, culturel ? On sait qu'on ne va pas, Pascal Regard, bouter les GAFA maintenant hors du territoire européen. Ce qu'il faut, c'est tenter de quoi ? De réguler, de régler ce problème de l'asymétrie qu'il peut y avoir aujourd'hui entre eux et les autres ?
Exactement, il faut que les opérateurs Internet, et ça ne peut être fait qu'à l'échelon européen et ensuite à l'échelon national, mais il faut d'abord des décisions européennes et des régulations équivalentes à celles qu'ont les opérateurs classiques, parce qu'on ne peut pas avoir un système où les opérateurs classiques qui sont soumis à cette concurrence déloyale, qui perdent de la publicité ou qui perdent des abonnés, continuent à avoir le maximum de règles, alors que leurs concurrents, sous prétexte qu'ils sont à Internet et qu'ils ne sont pas localisés en France, n'ont pas les mêmes règles. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas vivable. Alors sur la culture, il y a quand même un mot qui a disparu. Vous l'employez parce que vous appelez France Culture. C'est le mot culture. On ne parle plus culture, on parle industrie culturelle. Alors c'est le grand mot maintenant, industrie.
Ou on parle contenu.
Voilà, ou contenu. Alors le grand mot, le pire, c'est contenu. C'est un mot qui vient de l'anglais et des télécoms. Bon, alors on est contenu. Bon, il n'y a plus de films, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de musique. Il y a du contenu, voilà. Et puis, il y a les industries culturelles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les industries culturelles, derrière ça, il y a le mépris de l'auteur, il y a le mépris du créateur. Tout à l'heure, votre journaliste a parlé des succès de l'exportation française en fiction. Je peux vous dire que les auteurs n'en voient pas la couleur, parce que les contrats ont été conçus de manière à ce que leur rémunération proportionnelle ne fonctionne pas et ne marche pas sur ces recettes exportation. Donc, le grand oublié de la politique culturelle ces 5 dernières années, en vérité, c'est l'auteur. La politique s'est focalisée sur le soutien à la production, sur la protection du producteur indépendant par rapport aux chaînes de télévision en particulier, mais pas grand-chose sur les auteurs. Alors on peut toujours espérer que dans les 6 derniers mois, il y ait un sursaut fort qui nous permette d'espérer de nouvelles choses. Il y a eu des éléments très positifs dans la loi création qui a été votée à l'unanimité, et je trouve ça formidable que le Parlement s'entende pour voter la loi création. Un des éléments, c'est qu'il y a une obligation maintenant qui pèse sur les producteurs, sur les éditeurs de services d'exploitation, de recherche de l'exploitation suivie des œuvres, parce que sur le moteur de recherche manuel, ce moteur de recherche, il est là pour avoir l'offre légale. C'est plutôt positif. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que sur la totalité des films disponibles, possiblement visibles, il n'y en avait que la moitié qui était accessible en offre légale. Et c'est d'ailleurs pour cela que les parlementaires ont adopté cette disposition importante. Et je remercie en particulier Patrick Bloch qui l'a fait voter.
Une autre politique culturelle est visiblement possible. Vous en évoquez quelques pistes dans cet ouvrage que vous co-signez, Manuel Alduy, La culture sans État. Merci beaucoup. Mais il faudra probablement en passer par Bruxelles. C'est ce que vous nous avez rappelé tout au long de cette demi-heure, Pascal Regard. La politique culturelle française ne peut ainsi que compter que sur son meilleur ennemi pour survivre dans
dans les années à venir. La Commission européenne, qui a si longtemps combattu l'idée même d'exception culturelle, est en pratique la seule à pouvoir faire bouclier face à la razzia économique et culturelle lancée par les GAFA. Voilà cet extrait de votre livre, Manuel Alduy, La culture sans État, qui vient de paraître donc chez Odile Jacob. Un grand merci d'avoir avancé l'heure de votre venue et d'avoir été avec nous sur France Culture jusqu'à midi et demi.